J'aimerais vous enseigner ce matin quelque chose d'important, mais quelque chose d'extrêmement simple. J'aimerais vous enseigner ce matin pourquoi et comment marcher par l'Esprit. Et j'ai jamais enseigné ça ici. Pourquoi et comment marcher par l'Esprit. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, je suis aussi un disciple, et nous voulons nous laisser enseigner par le Seigneur, par sa parole. Et nous allons essentiellement essayer de comprendre ce matin comment marcher par l'Esprit. Et dans un premier point, nous allons premièrement essayer de comprendre tout simplement que signifie marcher par l'Esprit. Dans un deuxième point, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce si important de marcher par l'Esprit. Et enfin, et je vais prendre le temps pour le troisième point, nous allons essayer de comprendre aussi, ou plutôt je vais vous donner trois ingrédients de base nécessaires, indispensables pour marcher dans l'Esprit. Il ne suffit pas de se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, me voici, utilise-moi, je vais faire des grandes choses avec toi, je veux marcher dans l'Esprit ». Non, il y a des choses qu'on doit accueillir dans nos vies, il y a des choses qu'on doit vivre avec Dieu, il y a des choses qu'on doit accueillir, qu'on doit nourrir afin que ces choses puissent se manifester. Et il y a trois ingrédients de base qu'on doit apprendre à accueillir, à développer dans nos vies afin de les manifester. Et nous allons voir ces choses-là maintenant, ce matin. Et dans un premier temps, essayons de comprendre premièrement que signifie marcher par l'Esprit. En tant qu'homme, être humain, nous savons comment marcher dans ce monde physique. Nous savons ce qu'il faut faire pour marcher dans ce monde physique. Pour marcher dans ce monde, notre cerveau, et je le dis simplement, je ne suis pas un médecin, un médecin aurait pu vous donner des détails, mais de manière très simple, notre cerveau nous donne des informations, et ces informations, d'une manière simplifiée, vont finir par donner l'ordre à nos jambes de bouger. Et donc, lorsque on se lève, il suffit donc de ordonner, notre cerveau va ordonner au pied droit de bouger. Et je lui dis donc, bouger, et il bouge, vous voyez ? Puis le pied gauche. Et puis pied droit, puis pied gauche, pied... et puis ça marche, c'est qu'à de le dire, ça marche. Ça marche. Et c'est automatique, c'est instinctif, on le fait automatiquement, notre corps est habitué à ce genre de choses. Et marcher pour l'homme, c'est quelque chose de très important. Marcher, ça nous permet d'aller à la rencontre de l'autre, ça nous permet d'aller au travail, ça nous permet d'entreprendre des choses, des projets, même des choses pour Dieu. Et pour vivre, c'est important de marcher. Si ce matin, vous deviez quitter cette salle avec des jambes en moins, votre vie ne serait plus jamais la même. Les jambes, marcher, c'est important. Ça fait partie de la vie. Maintenant, l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5, et ce sera notre verset clé, nos deux versets clés, dans Galates chapitre 5, versets 16 et 17, il dira, « Voici donc ce que je dis, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Et on pourrait continuer. « Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. Alors, ce verset est très important parce qu'il, premièrement, m'enseigne que si l'homme a besoin de son cerveau et de ses jambes pour marcher dans ce monde physique, il existe une autre manière de marcher qui va me permettre d'aller à la rencontre de Dieu et de manifester la vie de l'Esprit qui est en moi. Il y a une manière de marcher dans ce monde physique, mais il y a une autre manière de marcher qui va me permettre de manifester la vie de l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est une manière d'entrer dans une réalité qui est autre que notre réalité physique. C'est une manière d'entrer là où je vais pouvoir trouver Dieu, là où je vais pouvoir découvrir la volonté de Dieu, là où je vais pouvoir découvrir les plans que Dieu a prévus pour moi de toute éternité. Il existe donc une manière de marcher qui va permettre à mon corps de bouger dans ce monde physique. Et il existe une autre manière de marcher qui va permettre à Dieu de bouger, de venir jusqu'à moi, de venir dans mon monde et bouleverser mon cœur et changer mon cœur et m'entraîner dans les choses qu'il a prévues d'avance pour moi. Que signifie donc marcher par l'Esprit ? Comment pourrais-je encore l'expliquer ? Marcher par l'Esprit, c'est une manière de marcher qui ne dépend pas directement de mon cerveau et de mes jambes. Mais c'est une manière de marcher qui va premièrement dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient le cerveau. C'est lui qui désormais envoie les informations. Jésus a dit, je pars, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et Jésus enseigne que le Saint-Esprit allait prendre tout ce qui appartient à Jésus et allait nous le communiquer. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Et son rôle aujourd'hui, c'est de prendre les informations divines, c'est de saisir tout ce que Dieu cherche à nous dire pour venir nous les révéler, pour venir nous les communiquer. Et c'est lui désormais qui désire être le cerveau et communiquer ces informations. Maintenant, vers qui ou vers quoi ces informations vont-elles? Ces informations vont vers, sont transmises à notre cœur. Non pas à tes jambes, mais à ton cœur. Si Dieu a besoin de nos jambes pour permettre à l'homme de se déplacer dans ce monde physique, Dieu a besoin de ton cœur pour que tu puisses marcher par l'Esprit. Le cœur de l'homme devient donc la cible de Dieu. Et parce que le cœur de l'homme devient la cible de Dieu, le cœur devient aussi la cible du diable. Pourquoi? Parce que le diable sait que si Dieu parvient à toucher un cœur, à le transformer et à l'entraîner avec lui dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui, il aura un problème. Et le diable ne veut pas que tu prennes conscience que tu peux être et que tu es un problème pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont venues dans cette salle et vous avez dit, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Oh là là, tous les problèmes que j'ai. Le diable est un problème. Et le diable est content lorsque tu raisonnes de cette manière. Mais Dieu désire te faire comprendre maintenant et personne ne va sortir de cette salle. Tant que vous n'avez pas pris conscience que tu peux être un problème et que tu es un problème pour le diable. Le cœur de l'homme est donc la cible de Dieu. C'est pour cela aussi que la Bible dit dans les Proverbes 4:23, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Jésus dira aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ou encore dans Jean 7, 37, il dira, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire de son cœur. » Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient vers une personne, il habite où? Dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs. Et nous comprenons mieux maintenant pourquoi le prophète Ézéchiel dira, au verset 26 du chapitre 36, lorsqu'il parle à Israël de cette nouvelle alliance, il dira, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Marcher donc par l'esprit, ce n'est pas je marche avec mes jambes dans ce monde, mais c'est je laisse Dieu marcher en moi. Je laisse Dieu me se déplacer en moi. Je laisse Dieu mettre ses deux pieds sur chaque partie, aspect de ma vie. Je laisse Dieu venir régner en moi et je le laisse transformer mon cœur. Je laisse transformer ma vie afin qu'il puisse ensuite m'utiliser, me conduire à sa gloire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Toute marche donc dans l'esprit commence par une totale ouverture du cœur à une totale action du Saint-Esprit. Ok, maintenant lorsque nous lisons le verset 16 de Galates chapitre 5, nous apprenons qu'à tout moment, il peut y avoir quelque chose que l'apôtre Paul appelle la chair et qui peut soudainement se réveiller afin de s'opposer au désir de l'esprit. Et cette chair, d'après l'apôtre Paul, a donc le potentiel véritablement de nous entraîner dans des œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu, mais dans des œuvres qui ont pour but de stopper les œuvres de Dieu, même de détruire les œuvres de Dieu. Ces œuvres sont appelées les œuvres de la chair. Qu'est-ce que donc la chair ? La chair, dans ce contexte-là, dans Galates chapitre 5, c'est notre vieille nature. Dit autrement, c'est le vieil homme qui sommeille en nous. Le vieil homme. Et pour vous, mesdames, il y a une vieille dame. C'est le vieil homme qui sommeille en vous. C'est la vieille dame qui est là cachée, qui cherche à se réveiller, qui cherche à s'opposer à tout ce que Dieu, par son esprit, cherche à faire dans vos cœurs. Il y a un vœu, monsieur, une vieille dame en chacun d'entre nous. Tu peux regarder ton voisin, elle est souriante, mais dis-toi qu'il y a un vieux monsieur qui est là, qui est prêt à t'étrangler. Ce vieux monsieur ou cette vieille dame en nous cherche à nous inspirer des désirs qui ont pour but de nous entraîner, d'après le verset 19, dans l'adultère, dans l'immoralité sexuelle, toute espèce d'impureté, dans la débauche, à adorer d'autres dieux, la magie, la haine, les disputes, la jalousie, la colère, la rivalité, la division, les excès de table et toutes sortes de choses encore qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais l'Esprit, lui, en nous, cherche à faire quoi ? À produire un fruit. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la patience. Imaginons, j'aurais besoin de toi, Simon. Imaginons que j'ai mangé un bon repas ce dimanche midi. Je suis sûr que ce sera très bon. Et sur les coups de 16 heures ou même 15 heures, j'ai bien mangé. Puis soudainement, je me rappelle que dans le frigo de ma belle-mère, il y a encore un gâteau à terminer. Et j'ai cette pensée soudainement. Et j'ai pas faim. Et puis je sais bien que c'est pas bon parce que c'est pas bon pour la ligne. Je vais avoir du cholestérol encore. Et puis c'est pas bon pour faire la volonté de Dieu. Ça surgit en moi. Le vieil homme se réveille en moi et il me dit il y a un gâteau qu'il faut terminer. Vas-y. Et à ce moment-là, alors que je suis en train de réfléchir, le vieil homme il se réveille, il est là. Et puis il dit viens. Et je pense encore, mais je résiste encore un peu. Et là il dit encore. Voilà. Mais je résiste encore. Mais il dit encore. Mais je résiste, je veux pas. Mais il dit. Mais là, je m'approche. Et à force de m'approcher, qu'est-ce qui se passe ? Il finit par me saisir. Il finit par me prendre. Et là, il ne me lâche plus. C'est le moment où j'ai avalé le gâteau. Et là, donc, il me tient, il ne me lâche plus. Et il me dit même, il y a encore des gâteaux dans l'armoire. Et là, donc, il me tient. Et je voudrais bien m'en défaire. Maintenant, je deviens l'esclave maintenant du vieil homme. Alors, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas se laisser avoir par le vieil homme ? Jésus a dit, si vous vous rappelez bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible signifie que la chair est tout simplement incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Par contre, si elle est faible, ça veut dire qu'elle est extrêmement puissante pour faire les désirs du diable. Donc, avec la chair, j'arriverai jamais à faire la volonté de Dieu. Par contre, je sais qu'elle est forte pour me tenir lié et pour m'emmener dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui est plus fort que la chair, qui a vaincu la chair. Qui est cette personne ? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc le but maintenant, c'est de pouvoir me soumettre à Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Donc Jésus vient. Donc le seul moyen, c'est d'aller me soumettre à Jésus. Et se soumettre, c'est laisser Jésus devant. Et là maintenant, je suis équipé. Mais le but, ce n'est pas d'attaquer la chair. Non, la chair, on l'ignore. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que si vous vous soumettez à Jésus, vous allez en avoir fini avec la chair. Maintenant, comment est-il possible de se soumettre à Jésus ? Par le Saint-Esprit, c'est possible. Le Saint-Esprit nous permet de nous soumettre à Jésus. Le Saint-Esprit rend la présence de Jésus en nous réelle. Et lorsque nous entrons dans la présence du Saint-Esprit, nous entrons dans la présence de Jésus. Nous ne sommes plus dans la réalité de la chair, mais dans la réalité du Saint-Esprit, dans la réalité de Jésus, dans la réalité du royaume de Dieu. La question est, comment vas-tu choisir de vivre ta vie ? Comment vivre par le Saint-Esprit ? Comment marcher par le Saint-Esprit ? Il y a en tout cas trois choses que nous avons tous besoin. Ces trois choses, c'est la parole de Dieu, la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Si vous voulez vous soumettre à Jésus et rester soumis à Jésus et marcher par l'Esprit et entrer dans une vie victorieuse, vous devez au moins accueillir trois choses. La parole de Dieu, être continuellement en contact avec la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va agir et va vous faire découvrir et expérimenter la puissance de Dieu qui est juste indispensable pour vaincre la puissance de la chair. Mais la puissance n'est pas suffisante. Nous avons aussi besoin d'expérimenter quotidiennement la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Lorsque j'ai quitté cette église, et je me rappelle mon premier culte à Lausanne, ça devait être le 6 ou le 7 mars, je ne sais plus par là. Je me rappelle, je venais de quitter Genève, je venais de quitter un grand groupe de jeunes, un bon groupe de jeunes que maintenant Nicolas dirige. Et j'arrive maintenant à Lausanne, c'est mon premier culte, une église qui avait rencontré plusieurs défis, une église à reconstruire. Et lorsque je suis arrivé, j'ai observé un peu l'église, et j'avais juste une question dans mon cœur. Où sont les jeunes ? Où sont les jeunes ? 50% de l'église, c'était des plus de 65 ans. Je passe d'un groupe de jeunes à un groupe d'aînés, mais c'est super. Et c'est vraiment super de pouvoir vivre ce temps, mais dans mon cœur, c'est où sont les jeunes ? Et rapidement, j'ai vu qu'il y avait un jeune qui jouait à la batterie. Il y en a un. Et quand je parle des jeunes, je parle tranche d'âge 16-25 ans. Et puis, avec le temps, j'ai découvert qu'il y en avait un deuxième. Il y en avait deux. Je dis, ouais, deux jeunes. On va pouvoir faire quelque chose. Alors, j'ai convoqué ces deux jeunes. Je vais vous les montrer. Voilà. Un mercredi soir, je leur ai dit, on va commencer un groupe de jeunes. Et ces deux jeunes, je leur ai dit, essayez-vous. Voici ma vision. Ma vision est, Dieu est un Dieu puissant. Dieu agit. Dieu va nous faire grâce. Dieu a des grandes choses pour nous. Dieu va se manifester. Et j'ai prêché la grâce, j'ai prêché la puissance de Dieu. Je leur ai dit, ok, bye bye, on se retrouve dans deux semaines. Deux semaines après, ils sont revenus. Et je leur ai dit, asseyez-vous, je vous prêche ma vision. Voici ma vision. Dieu est un Dieu puissant. Dieu agit. Dieu fait des grandes choses. Dieu se manifeste. Dieu veut agir au milieu de nous. Ils sont partis. Revenez deux semaines après. Ce soir ainsi, je vais vous communiquer ma vision. Dieu est un Dieu puissant. Dieu agit. Dieu fait des grandes choses. Il va se manifester. Merci, partez. Et ainsi de suite, pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et à un moment donné, deux autres jeunes sont arrivés. Et d'ailleurs, vous en connaissez une ici, qui va prendre son baptême d'eau d'ailleurs dimanche prochain. 4 jeunes, je leur ai dit, voici ma vision. Dieu est puissant. Dieu fait des grandes choses. Dieu se manifeste. Et Dieu a envoyé des jeunes et nous sommes devenus 5. Et j'ai continué et nous sommes devenus 9. Et j'ai continué et nous sommes maintenant 15. Mon but était de leur communiquer au travers de la parole de Dieu que Dieu est un Dieu puissant, mais que c'est aussi un Dieu de grâce. C'est de leur communiquer ces trois choses essentielles, indispensables pour marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Si tu veux marcher dans les œuvres de Dieu, tu as besoin de développer en toi et de nourrir en toi sa parole, sa puissance et d'expérimenter, mais aussi sa grâce. Certaines personnes m'ont demandé, mais comment tu fais ? Mais je dis, moi, je fais rien. Je fais que prêcher la parole de Dieu. Il y a d'ailleurs, pendant tout un temps, j'ai plus du tout prêché. J'ai repéré des jeunes. J'ai dit, toi, tu prêches. Maintenant, tu as prêché. C'est toi qui as prêché. Mais je l'ai vu pendant dans le bureau. Je lui ai dit, voici ma vision pendant au moins une semaine. Et puis, elle communique ça aux autres. Et je leur ai dit, mais au début, je faisais rien. Je prêchais simplement la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Ensuite, j'allais prier pour ce jeune. Et la puissance et l'amour de Dieu se révélaient de manière incroyable dans leur vie. Dieu les touchait, Dieu les remplissait du Saint-Esprit. Et les jeunes, n'entendez plus juste des paroles, mais expérimentez la puissance de Dieu. Et quand un jeune expérimente la puissance de Dieu, ou même n'importe quelle autre personne expérimente la puissance de Dieu, il se dit, c'est pas juste des paroles, mais Dieu est vivant vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il ramène d'autres jeunes. Et on fait la même chose avec eux. Ce que je cherche à vous dire, c'est que nous avons besoin, en tout cas, de trois choses. La parole, la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Laissez-moi rapidement vous montrer comment la parole, la puissance et la grâce de Dieu, comment il est possible d'expérimenter ça afin d'entrer dans cette vie de l'Esprit. Je prends un passage très simple que vous connaissez tous dans Jean chapitre 3, je lis les premiers versets. Jean 3 nous dit ceci, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème était un pharisien, un chef parmi le peuple, un docteur, un enseignant. Et il y a quelque chose qui interpelle Nicodème lorsqu'il observait Jésus. Nous savons que juste avant ce passage, je ne l'ai pas lu, mais Jésus prêchait à Jérusalem. Et il y avait des miracles qui se manifestaient. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à la foule parce que la foule venait juste pour les miracles. La foule venait pour recevoir juste des cadeaux. Mais il ne s'inquiétait pas de Jésus. Mais la Bible dit, mais il y avait un homme, Nicodème. Lui, je crois qu'il était parmi la foule. Je pense qu'il a vu, il a regardé Jésus prêcher, il a écouté Jésus prêcher, il a vu les miracles. Mais il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Il a été interpellé par quelque chose, il y a quelque chose qui va naître dans son cœur. Il y a un feu qui va brûler dans son cœur. Il y a des questions qui vont venir. Et il dit, mais il y a des questions, là j'ai besoin d'avoir des réponses à ces questions. Alors, la Bible dit qu'il va de nuit. Pourquoi de nuit? Parce que c'était un pharisien et puis Jésus n'était pas très bien coté parmi les pharisiens. C'était la pire chose qui puisse arriver pour les pharisiens, pour Israël. Alors, il ne faut surtout pas que ses collègues pharisiens le voient avec Jésus. Donc, il vient de nuit et il dit à Jésus, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dans une affirmation, Nicodème relève deux fois la même chose. Il dit premièrement, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et il termine en disant, « Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. » Il relève donc que cet homme-là, qui s'appelle Jésus, a quelque chose de particulier. Il a une relation avec Dieu. Dieu habite en lui. Et il est interpellé par cette intimité que Jésus a avec le Père. Le Fils avec le Père, il voit cette relation, cette intimité entre le Fils et le Père. Et il se pose une question, mais comment Jésus fait pour avoir une telle intimité avec le Père? Moi aussi j'aimerais avoir ce Père, et puis il voit Jésus, il voit le Père qui parle au travers de Jésus, il voit le Père qui manifeste ses miracles. Et en d'autres termes, la question, parce qu'il y avait une question cachée derrière cette affirmation, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, la question était, mais comment tu fais pour marcher par l'Esprit? Il n'aurait jamais utilisé ces termes-là, parce que c'est l'apôtre Paul qui va nous apporter après cette révélation et cet enseignement, mais c'est ce qu'il était en train de voir. Il était en train de voir un Jésus qui marche par l'Esprit, et il veut savoir, mais comment tu fais pour marcher par l'Esprit? Et Jésus donc va lui donner la réponse, rapidement. Il va lui dire, premièrement, tu dois naître de nouveau. Ça veut dire que tu dois tout recommencer. Et Nicodème comprend cela. Il saisit, il dit, ok, je dois tout recommencer. Mais comment je fais pour tout recommencer? Est-ce que j'allais voir ma mère, je l'éventre, puis je rentre dans son ventre, puis je... Comment je fais? Et Jésus voit qu'il n'a pas compris, alors il redit les choses différemment. Il dit la même chose, mais différemment. Il dit, ok, Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit si tu veux entrer dans cette réalité du Saint-Esprit, du royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau, essentiellement aussi dans l'évangile de Jean, nous parle de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Et ici, c'est l'action du Saint-Esprit qui purifie les cœurs. C'est l'action du Saint-Esprit qui ôte notre cœur de pierre et purifie de tout péché. Mais ensuite, il dit d'eau et d'esprit. Et on pourrait imaginer que Jésus se répète, puisque l'eau nous parle de l'esprit, et puis il redit naître d'eau et d'esprit. Mais Jésus parle d'autre chose. Il est juste en train de faire une distinction entre deux actions du même Saint-Esprit. Et naître d'esprit nous parle de la nouvelle nature que Dieu veut nous donner. Nous parle de ce cœur nouveau que Dieu veut créer en nous et dans lequel le Saint-Esprit vient habiter. Et en d'autres termes, donc, Jésus lui dit, si tu veux donc marcher par l'Esprit, entrer dans cette vie de l'Esprit, entrer dans le royaume de Dieu, tu dois premièrement, par la repentance, laisser le Saint-Esprit ôter le cœur de pierre qui est en toi, te purifier de tout péché. Mais ensuite, tu dois le laisser créer un cœur nouveau en toi et il va venir habiter en toi. Et à partir de là, tu es prêt pour entrer dans cette vie de l'Esprit. À partir de là, le Saint-Esprit va devenir le cerveau. On ne te verra plus, tu vas devenir comme le vent. Il va donner des instructions. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et ta vie va devenir imprévisible. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Il te montre les choses qu'il faut faire. Et là, Nicodème réfléchit, et puis il comprend, il dit, « Ok, j'ai compris. J'ai donc besoin d'être touché, rencontré puissamment par le Saint-Esprit, puissamment par Dieu. » Alors, il y a une autre question qui lui vient à l'esprit. Comment, Jésus, concrètement, on peut vivre la puissance de Dieu? Comment, concrètement, on invite le Saint-Esprit? Comment, concrètement, le Saint-Esprit vient changer notre cœur, vient nous transformer de jour en jour? Mais comment c'est possible? C'est très simple. Jésus va lui dire. Ou plutôt, Jésus va l'amener, on n'a pas lu, mais Jésus va l'amener tout simplement à lever les yeux là où coule la puissance. Il ne va pas dire « va au Canada ». Il ne va pas dire « va en Amérique ». Il ne va pas lui dire va au temple ». Il va lui dire « lève les yeux vers la croix ». Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Tu dois lever les yeux vers le Christ crucifié. Jésus est en train de prophétiser sa mort à la croix. Il est en train de dire « Je vais mourir à la croix et de la croix, la puissance va couler. » Et c'est là que la puissance sera disponible pour chaque homme. Plus besoin d'aller au temple, sur la montagne, au Canada, en Amérique, en Afrique. Là, dans ta chambre, tu fermes, tu cherches Dieu et la puissance de Dieu va venir sur toi, transformer ton cœur et agir dans ta vie. La puissance de Dieu. Je lève les yeux vers le Seigneur Jésus. Pas vers Michel, comme disait Nicolas, pas vers un pasteur, mais vers le Seigneur Jésus, vers le Christ crucifié. Et c'est lui qui me donne la puissance. La croix, c'est la révélation de l'amour de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour. Alors que nous étions pécheurs, Jésus prouve son amour. Dieu prouve son amour en venant et mourant pour nous. Ce matin, je termine avec cela. Venons au pied de la croix. Je vous invite ce matin, chacun d'entre vous, certains sont venus ici avec des chaînes. Il y a peut-être le vieil homme, la vieille dame qui vous tient en ce moment, bloqué, esclave de certaines choses. J'aimerais ce matin que nous puissions juste venir au pied de la croix. Et demander au Seigneur qu'il vienne nous toucher. Demander au Seigneur qu'il vienne nous visiter. Dire, Seigneur, j'aspire ce matin à entrer dans cette vie de l'Esprit. J'aspire ce matin à ne plus marcher par la chair, marcher par la vue, mais à marcher par l'Esprit. Seigneur, je suis là devant toi. Je suis devant, Seigneur Jésus, au pied de la croix. Et je te dis, Seigneur, viens, coule, que ta grâce coule, que ta puissance coule. Transforme-moi maintenant. Alléluia.